Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je continue le chapitre 17, la transformation de l'aventure de la conscience de Sri Aurobindo, écrit par Satprem en français. Devant les résistances collectives, Sri Aurobindo et Doucemer avaient hésité un moment. Ils s'étaient demandé s'ils ne pouvaient pas se couper du reste du monde et progresser tout seuls en pointe, avec quelques disciples, opérer la transformation, puis revenir à un travail collectif afin que la transformation accomplie en eux-mêmes ou partiellement accomplie fasse tache d'huile sur le reste de la terre. C'est une idée qui a poussé tant de groupements spirituels, occultes, chevaleresques ou autres à se choisir un lieu secret à l'écart du monde pour faire leur travail à l'abri du pourrissement des vibrations collectives. Mais ils s'aperçurent que c'était une illusion et qu'après l'abîme ou encore, comme dit Sri Aurobindo, le gouffre atmosphérique serait trop immense entre la réalisation nouvelle et le vieux monde pour pouvoir jamais être comblé. Et que sert une réussite individuelle si elle n'est pas transmissible au reste du monde? Nous serons comme le roi d'Andersen, dont nous parlions tout à l'heure, si un être supramental apparaissait brusquement sur la terre, personne ne le verrait. Il faut d'abord que nos yeux s'ouvrent à une autre méthode de vie. Si vous avancez sur le chemin qui est prêt, dit la mère, car il en est des chemins comme des êtres, certains sont prêts, sans avoir la patience d'attendre le reste de la création, c'est-à-dire si vous réalisez quelque chose qui soit très proche de la vérité par rapport à l'état actuel du monde. Que se produira-t-il? La dislocation d'un certain ensemble, une rupture, non seulement d'harmonie mais d'équilibre, parce qu'il y aura toute une partie de la création qui ne pourra pas suivre. Et au lieu d'une réalisation totale du divin, on aura une petite réalisation locale, infinitésimale, et rien ne sera fait de ce qui doit finalement être fait. En outre, souligne la mère, si l'on veut faire le travail d'une façon solitaire, il est absolument impossible de le faire d'une façon totale, parce que tout être physique, si complet soit-il, même s'il est d'une qualité tout à fait supérieure, même s'il a été produit par une œuvre tout à fait spéciale, n'est jamais que partiel et limité. Il se présente qu'une vérité, une loi dans le monde, ce peut être une loi très complexe. Mais ce n'est jamais qu'une loi, et la totalité de la transformation ne peut pas se faire à un être seul, à travers lui seul, à travers un seul corps. On peut atteindre, solitaire, sa propre perfection, on peut devenir dans sa conscience infinie et parfaite. La réalisation intérieure n'a pas de limite, Mais la réalisation extérieure, par contre, est nécessairement limitée. De sorte que si l'on veut avoir une action générale, il faut au moins un minimum de personnes physiques. Après 14 ans de concentration individuelle en 1940, Sri Aurobindo et Mère ouvraient toutes grandes les portes de leur ashram. Alors commence la troisième phase de la transformation qui continue encore une phase d'expansion et de travail terrestre. Un ashram en Inde est une communauté spirituelle ou religieuse dont les membres rassemblés autour d'un maître ont renoncé au monde pour se consacrer aux méditations, concentrations, exercices yogiques et parvenir à la libération. On se doute que l'ashram de Sri Aurobindo n'a rien à voir avec cette définition, sauf le fait que des disciples sont rassemblés autour de Sri Aurobindo et de Douce Mère. Ce n'est pas une sorte de couvent exotique, encore moins un lieu de refuge et de paix. C'est plutôt une forge. La forge, c'est là où il y a du feu et ça brûle. Ce n'est pas pour le renoncement au monde que cet ashram a été créé, mais comme un centre ou un terrain d'expérience pour l'évolution d'une nouvelle forme de vie. Dès avant son arrestation au Bengale à l'époque où il ne songeait même pas à fonder un ashram, Sri Aurobindo disait déjà « C'est dans l'homme qui vit la vie ordinaire des hommes par la force du yoga que la vie spirituelle trouve son expression la plus puissante. C'est par l'union de la vie intérieure et de la vie extérieure que l'humanité sera finalement soulevée et qu'elle deviendra puissante et divine. Son ashram est donc tout mélangé à la vie ordinaire, au beau milieu de la pâte collective, puisque c'est là que doit s'opérer la transformation, non sur quelques cimes himalayennes. En dehors du bâtiment principal où vit la mère et où se trouve le tombeau de Sri Aurobindo, les quelques 1200 disciples de toutes les nationalités et de tous les milieux, hommes et femmes, dont 400 ou 500 enfants, sont éparpillés à travers la ville de Pondichéry, dans plus de 300 maisons différentes. Il n'y a pas de mur protecteur, sauf la lumière intérieure où on est tout de suite dans le bazar. L'occidental qui arrive avec l'idée de trouver la paix et d'apprendre le yoga est donc déçu. D'abord, on ne cherche pas à lui apprendre quoi que ce soit. C'est désapprendre qu'il faudrait plutôt. Il n'y a pas de classe, pas d'enseignement, sauf les œuvres de Sri Aurobindo et les entretiens de la mère qui sont à la disposition de tout le monde, ainsi que tous les autres enseignements, d'ailleurs traditionnels ou non. Il n'y a pas de règles non plus. Le disciple doit tout découvrir par lui-même, en lui-même, au milieu d'une vie extérieure extraordinairement active. Il est livré à lui-même au reste. Comment pourrait-on faire des règles pour une œuvre qui embrasse tous les niveaux de l'évolution, mental, vital, psychique, tous les êtres humains, toutes les traditions. Certains disciples ont été élevés dans le christianisme, d'autres dans le taoïsme, l'islam, le bouddhisme, l'athéisme, etc. Chacun doit découvrir la vérité qui n'est pas celle de son voisin. D'aucuns croient en la vertu de l'ascétisme en dépit de tout ce que Sri Aurobindo a pu en dire. Ils vivent retirés comme des ascètes. D'autres préfèrent le judo ou le football. D'autres croient dans les livres et d'autres n'y croient plus. D'autres font des affaires, fabriquent de l'acier inoxydable, des parfums, même des tonnes de sucre dans une nouvelle raffinerie. Il y a pour tous les goûts celui qui aime la peinture peint, celui qui aime la musique dispose de tous les instruments possibles, indiens ou occidentaux, celui qui aime l'enseignement est le professeur au Centre international d'éducation et joue sur toute la gamme. Kindergarten au stade universitaire. Il y a aussi une imprimerie, des laboratoires, des champs, des rizières, des ateliers mécaniques pour les voitures particulières, des tracteurs, des camions, des rayons X, une salle d'opération. Toutes les professions sont représentées. C'est un microcosme. On peut être boulanger, ou même nettoyer la vaisselle, faire de la menuiserie, si l'on croit en la vertu des travaux simples. Il n'y a d'ailleurs aucune différence entre ces activités. Toutes les nécessités de la vie sont pourvues par la mère. Chacun suivant ses besoins. Il n'y a qu'un travail véritable, découvrir la vérité de son être. Donc l'autre, le travail extérieur, n'est qu'un moyen. L'étrange d'ailleurs est que l'on assiste souvent à des changements d'activité à mesure que la conscience s'éveille. Toutes les valeurs qui présidaient aux anciens métiers s'écoulent assez vite. Et puisque l'argent ne signifie plus rien, tel qui se croyait médecin se découvre mieux dans la peau d'un artisan. Et l'homme moyen se révèle souvent un peintre, un poète, ou se plonge dans l'étude du sanskrit et de la médecine ayurvédique. C'est une refonte complète des valeurs extérieures suivant le seul critère intérieur. Un disciple ayant demandé à mère un jour quelle était la meilleure façon de collaborer à la transformation supramentale. Il lui a répondu ceci. C'est toujours la même chose. Réaliser son propre être sous n'importe quelle forme, par n'importe quel chemin. Cela n'a aucune importance, mais c'est le seul moyen. Chaque individu porte en soi une vérité, et c'est à cette vérité qu'il doit s'unir. C'est à cette vérité qu'il doit vivre. Et comme cela, le chemin qu'il suivra pour joindre et réaliser cette vérité est aussi le chemin qui le mènera le plus près possible de la transformation. C'est-à-dire que les deux sont absolument unis. la réalisation personnelle et la transformation, qui sait, peut-être même est-ce cette multiplicité d'approches qui donnera le secret et qui ouvrira la porte. Il n'y a pas de vie commune non plus, sauf un lien intérieur. Certains disciples ont gardé l'habitude d'autrefois, du temps où la mère avait ses entretiens avec les enfants de l'ashram et continue de se réunir deux fois par semaine pour une méditation collective. Mais c'est pour les sports qu'ils se rencontrent surtout. Il y a bien une salle à manger commune, mais la plupart préfèrent la cuisine chez eux, en famille ou seuls. Il y a toutes sortes de sports, depuis le hatha yoga traditionnel jusqu'au tennis et à la boxe. Il n'est guère de disciple qui s'est consacré une heure ou deux chaque jour. La mer est à côté, mais on trouve une discipline olympique. Il y a des terrains de basket, des volley-ball, une piste cendrée, un gymnase, un ring, une salle de judo. Tous les exercices possibles y sont pratiqués, de 5 à 80 ans. Il y a aussi un théâtre et un cinéma. Pourtant, le sport n'est pas un article de foi non plus. Rien n'est article de foi, sauf naturellement la foi en les possibilités divines de l'homme et en une vie plus vraie sur la terre. Vous tous ici, mes enfants, disait Douce Mère aux plus jeunes, vous vivez dans une liberté exceptionnelle. Pas de contraintes sociales, pas de contraintes morales, pas de contraintes intellectuelles, pas de principe, rien qu'une lumière qui est là. Mais c'est une lumière très exigeante et c'est ici que le travail terrestre commence. Le laboratoire, disait souvent Sri Aurobindo, on comprend mieux si nous disons que chaque individu représente un certain ensemble de vibrations et que chacun a accès à une zone particulière du subconscient. C'est ainsi qu'il y a des types de gens, pourtant extérieurement séparés par des religions différentes, des cultures différentes, des étages sociaux différents et même des morales différentes qui sont tous pareils dans le subconscient, comme si l'on voyait l'un à travers l'autre, disait Mère. C'est une sorte de superposition curieuse et nous ne voyons que deux ou trois individus l'un à travers l'autre parce que notre vision est limitée à un cercle restreint. Mais si nous avions la vision totale, nous verrions que derrière eux, il y a des milliers, il y en a des milliers et des milliers. Et ils sont agglutinés dans des zones bien déterminées. Il y a des êtres que l'on ne rencontre jamais ensemble dans le subconscient et qui pourtant sont très proches dans la vie extérieure et inversement. Alors apparaît clairement le mécanisme du travail terrestre. Chacun, dit Douce Mère, est un instrument pour contrôler un certain ensemble de vibrations qui représente son champ de travail particulier. Chacun, par ses qualités et ses défauts, a un accès à une zone de la conscience terrestre qui représente sa part de la transformation collective. Voilà. Alors aujourd'hui, je termine sur la transformation collective, égale Auroville aussi, dans l'aventure de la conscience, dans le travail de transformation du livre de Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, traduit en français par Satprem. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette merveilleuse lecture de la transformation. Merci Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, à Savitri Bhavan Auroville.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.